Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom, troisième livre, Vitiyinkan, épisode 1, 2, 3. Luna Merides contemplait la planète Pangeto depuis le vaisseau de transport qu'il avait ramené depuis Los Angeles. En s'approchant de la ville, Pangeto, on lui montra le complexe d'Ialden, car on savait qu'il allait à Liamas. La seule chose qu'il vit clairement, preuve de la puissance de Liamas et privilège au milieu de la grande ville de Pangeto, des espaces verts, autour et sur les bâtiments. Une grosse tache verte au milieu des buildings. Il n'en retiendra pas grand-chose de plus, étant nauséeux. Eh oui, la compagnie avait tenu sa promesse. On lui avait demandé où est-ce qu'il voulait aller. On avait été un peu surpris qu'il ne veuille pas retourner sur sa planète d'origine, Enarsemis. Mais bon, on avait compris cette histoire de ligne illimitée, d'entraînement à Liamas. Et donc, on l'emmenait vers Pangeto, là où il allait suivre sa période d'intégration. Simplement, au lieu de faire le voyage sur un vaisseau de transport, privé, un petit peu luxueux, comme la plupart de ceux qui quittaient Los Angeles, vu la manière dont s'était fait le départ, un petit peu précipité, plus ou moins en cachette, on avait détourné un cargo, et le voyage n'avait pas été très confortable. La stase Tran n'avait pas été parfaite. Il avait de vagues souvenirs, de micro-réveils particulièrement désagréables. Il remarqua donc juste la tache verte, se fit la remarque, effectivement, du privilège que cela représentait, et donc de ce que Liamas pouvait être pour la planète Pangeto. Mais c'est tout. Il était plutôt déjà en train de se concentrer sur l'atterrissage et l'accueil qu'on lui avait promis. La compagnie avait vraiment bien fait les choses. Il avait touché sa prime, comme s'il était resté les 6 ans, ce qui était particulièrement généreux. Il en était presque à se demander si cela ne cachait pas quelque chose. Ensuite, il s'était dit que Denis devait avoir le bras particulièrement long, car il y avait eu des négociations, pas seulement pour Liamas, mais surtout pour les villes virtuelles. C'est qu'avec cette histoire, cela faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas mis les pieds. Pour la citoyenneté, c'était important d'y aller longtemps, et surtout d'y aller régulièrement. Pour Eubriel, pas de souci, c'est là où il avait passé le plus de temps. Il avait déjà obtenu sa citoyenneté. Mais pour New Santorin, Casteldeck et Iin Venis, il avait compris qu'il faudrait se montrer encore assidu quelque temps et qu'on n'avait pas suspendu sa citoyenneté, et qu'il pourrait l'obtenir dans quelques mois, après avoir fait son travail du soir, qui promettait donc des journées chargées puisqu'il lui faudrait le faire, en plus de ce qu'il ferait à Liamas pour son intégration. Et puis, il avait dans la poche un pass accueil VIP. Il se souvenait de la maison des nouveaux arrivants, sur Enarsemis, mais il était enfant, il avait trouvé ça plutôt amusant, un peu comme un jeu, alors que là, il savait les choses un petit peu plus sérieuses. C'était un bâtiment de 4 étages, relativement petit. Il ne devait pas y avoir beaucoup de visiteurs sur Pangeto, ou en tout cas pas beaucoup de visiteurs qui restaient suffisamment longtemps pour avoir besoin de passer par la maison des nouveaux arrivants. Première étape, le supermarché, et là, le choc. Forcément. Après 4 ans, passé pratiquement seul, au fin fond d'un entrepôt, au fin fond de l'espace, tout ce monde, car un autre vaisseau venait d'arriver, et cette profusion de bruit, de musique, de lumière, car on avait réellement recréé l'environnement normalement rassurant d'un supermarché que tout le monde connaissait, bref, il en fut un petit peu étourdi. Et puis, ce qui est plus habituel quand on change de planète, des nouvelles marques, des nouveaux noms, des nouveaux emballages, il fallait s'y retrouver un petit peu, même si, évidemment, il n'en était pas encore à faire ses courses. Il se dit que ça pouvait l'aider à s'intégrer un petit peu mieux sur Pangeto. C'était sans doute le but dissimulé par les marques, même si la maison des nouveaux arrivants. Bah faites tout de même attention, hein. Vous savez que le temps est compté dans la maison des nouveaux arrivants. Non, pas pour moi. J'ai un pass VIP. Oh, mais c'est formidable alors. Vous allez pouvoir m'aider à faire mes courses. Loon se souvenait vaguement que dans la maison des nouveaux arrivants, il y avait des assistants pour les gens comme lui, peut-être un petit peu désorientés. Cela lui faisait presque bizarre, mais finalement c'était bien agréable d'avoir à discuter avec quelqu'un, d'accord, qui était payé pour le faire, enfin, pas pour discuter avec lui, mais en tout cas, une interaction humaine, peut-être un petit peu plus riche que ce qu'il avait eu pendant le voyage. « Commencez par m'attraper la bouteille bleue là-haut, s'il vous plaît. » Loon, ne se méfiant pas, ne vit pas la mamie reculer d'un pas. Il n'était pas très grand, il lui fallut se mettre sur la pointe des pieds. Coup de chance, car sinon... C'est sur son pied que la bouteille se serait écrasée, en lui faisant bien mal. Argue ! Vous venez d'où ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, d'un endroit où il n'y a pas d'humains, et encore moins de bouteilles qui dégringolent des rayons. Non mais je veux dire, Angers ? Ah, moins 3. Eh, ici, plus 7%. Je comprends que la bouteille vous glisse des mains. 2 kilos, plus 10%. 2 kilos? Ah, oui, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait attention. Je pensais que c'était 1 kilo. Bon, bah c'est bien, vous allez pouvoir m'accompagner, surtout que vous avez tout votre temps, avec un pass VIP. C'est ainsi que Loon passa 3 quarts d'heure, avec sa mamie, à d'abord remplir son panier, puis finalement remplir un chariot, tellement il y avait de choses à mettre dedans. À chaque fois, exercice périlleux, car évidemment, la grand-mère lui faisait récupérer les éléments soit en bas, pour qu'il se baisse, soit en haut, pour qu'il se mette sur la pointe des pieds et sente bien le poids du produit. Essoufflé, les reins brisés, Loon n'en pouvait plus. Eh bien voilà, vous avez suffisamment de marchandises pour tout le mois, on peut peut-être s'arrêter là. Marchandises? Produits, vous voulez dire? Attention, ne gardez pas vos réflexes de logistique et d'entrepôt. Merci mamie. Je vous en prie, bon courage. 3 quarts d'heure, pendant lequel elle lui avait appris les différents produits, plus de nombreuses informations utiles sur la planète. Climat, horaire, transport en commun. Il avait l'impression d'être fourbu et d'avoir déjà vécu quelques jours ici pour en savoir déjà un petit peu plus. 2e étape, avec son pass VIP, l'hôtel. 3e étape, qui aurait pu être la 2e ou la 1ère, la salle de sport, il décida de ne pas en profiter. Entre chaque partie, taxi. Oh, pas un vrai. Les espèces de véhicules, ressemblant sans doute à ceux qu'il allait trouver ici, montaient sur rail. La porte s'ouvre, à l'intérieur c'est un robot, évidemment ça coûte moins cher, et puis surtout, un humain, le pauvre, qui passerait son temps à l'intérieur des bâtiments, à faire semblant de conduire un taxi, qui en réalité est sur des rails. Passer son temps aussi à dire à ses clients de faire attention, ce qui évidemment n'arrive jamais. Ça ne manque pas. Loon se prend les pieds dans le marchepied au moment de rentrer et manque de se cogner la tête. Engoncé dans sa combinaison anti-rayonnement, il sent vraiment qu'il est un lourdeau. Plus 10% de poids. C'est rude. Très rude. Même pour les sportifs de haut niveau. Direction l'hôtel donc. Ah, évidemment, il y a la queue. Il est privilégié. Passe VIP. Il fait la queue, mais il pourra y passer 30 minutes. 30 minutes d'hôtel. S'il est déjà cassé de partout, il imagine à peine comment ça va se terminer. Enfin vient son tour. 1ère étape, rejoindre la chambre. Évidemment, pas d'ascenseur, il est au 3e étage. En tant que VIP, il a 30 minutes, et donc toutes les options. La première, celle que tout le monde a, de base, quand on accède à l'hôtel, ranger tout ce que l'on a acheté au supermarché. Ainsi, après avoir trimballé son cabas, dans le taxi, puis pendant la queue, le voilà en train de ranger tous ses produits dans les placards, évidemment, certains au ras du sol, d'autres à hauteur. 2e étape, faire le lit, qu'il ne faudra pas oublier de défaire avant de partir. Évidemment, lit superposé, dans un coin, épuisant. Et ensuite, 3e étape, parce qu'il a le temps, VIP, ce qui pourrait paraître une récompense, mais qui ne l'est pas, se mettre dans le lit. Ça veut dire d'abord se déshabiller, encore plus épuisant. Puis enfiler l'espèce de pyjama en papier, monter l'échelle et s'allonger. Il est fourbu de partout. Il se serait bien endormi, mais il sait qu'il n'y a que quelques minutes, et la sonnerie qui retentit dans l'appartement le lui rappelle. Il faut passer à la suite. La dernière option, mettre la table. Les verres, les assiettes, évidemment, dans des placards en haut, dans des placards en bas, partout dans l'appartement. Ensuite, se rhabiller. Qu'il est tellement fatigué qu'il a oublié. Puis, défaire le lit qu'il avait fait, et ensuite, récupérer tous les produits qu'il avait mis un peu partout, pour les remettre dans son cabas, et sortir, avec, en dernière étape, les 3 étages à descendre. Presque plus difficile qu'à la montée, tellement il est épuisé. Bienvenue à Pangetto. Oui, le voilà bien prévenu. Les plus 10% de gravité, il les sent. Il a presque commencé à s'y habituer. Et puis, tout ce monde. Au début, ça lui tournait un peu la tête. Il est presque rassuré de voir des humains, plein d'humains, partout, qui semblent complètement l'ignorer. Dernière étape de son arrivée, et pas la moindre. Il a l'impression que c'est un véritable parcours du combattant. Sortir du spatioport, trouver un taxi, un vrai, essayer de ne pas se prendre les pieds dans le marchepied, de ne pas se cogner, rater, se reposer un peu, essayer de ne pas s'endormir pour profiter de la vue et regarder un petit peu la ville, se faire une première impression. Arriver à l'hôtel, le check-in, l'ascenseur, au moins il y a un ascenseur. La chambre n'est pas très très haut. Il aurait bien aimé avoir une chambre beaucoup plus haut, avec une très belle vue sur la ville, mais bon. Et puis, un grand blanc. L'erreur. Il s'est posé 5 minutes sur son lit, il se réveille au milieu de la nuit. Enfin, visiblement, VIP ici aussi, L'hôtel n'est pas luxueux, mais on peut s'y faire servir un repas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et en plus, demander un repas un petit peu adapté, car Loon est toujours nauséeux. C'est presque avec plaisir qu'il va à la salle de sport de l'hôtel et découvre surtout la piscine. Un très vieux souvenir. Il dormira ensuite comme un bébé et finalement se retrouvera en retard à courir pour attraper son taxi et pour rejoindre Dee Alden pour sa première journée d'intégration. C'est en ayant le nez dessus qu'il se rend compte qu'il devait vraiment être complètement à côté de ses pompes quand le vaisseau s'est approché de la ville. Ce qu'il avait vu, c'était une grande tache verte. Forcément, c'est ce qui ressortait le plus au milieu des autres immeubles. Il ne s'était pas rendu compte que Dee Alden était sous un dôme. Peut-être avait-il trouvé le verre un peu bizarre, mais sans comparaison. Et là, effectivement, la zone était gigantesque. Et surtout, au milieu des buildings, il y avait une bulle. Les conséquences ne le frappèrent pas tout de suite. Il était inquiet pour son retard. Il se les prit donc de plein fouet. L'homme qui l'accueillit commença par le rassurer. Il avait tout son temps. Puis regarda sa fiche. Spacon, maladie d'Arnitz. Bien. Je vous préviens, je ne vous donne pas mon nom, ça vous évitera de me maudire à distance. Lou n'avait pas bien compris. L'homme fit alors une chose insensée, il lui enleva son connerre et le déshabilla, récupérant la combinaison pour la mettre dans un casier. Lou, qui n'avait pas prévu ça, étant en petite tenue en dessous, fut heureux qu'on lui présentât une sorte d'uniforme. Ça lui faisait tout bizarre. Pas de conneur, comme dans l'espace, pas de combinaison, comme dans les appartements protégés, mais avec 10% de gravité en plus. Il l'apprendrait le lendemain soir, il avait eu un traitement de faveur, en tant que Spacon avec la maladie d'Arnitz. La journée se passa en traitement administratif et autres. Il s'attendait à ce qu'on lui présente Andrew Semitel, le patron du centre de recrutement, mais non. Il passait son temps entre salle d'attente, papier administratif et test physique. En fait, tout avait été pensé exprès pour lui. Enfin, pour lui, pour les gens comme lui. Pas de conner, pas de combinaison anti-rayonnement, 10% de poids en plus. Il fit 3 crises d'angoisse dans la journée. La deuxième, tellement forte, qu'il fallut l'emmener à l'infirmerie. Il eut beau expliquer que cela pouvait aussi être la fatigue, et puis tous ces humains, enfin, raconter ce qu'il avait vécu pendant 4 ans, et donc le choc, forcément, de revenir à une vie normale, le traitement était toujours le même. On lui rendait son conner, on l'empaquetait dans sa combinaison anti-rayonnement, et on attendait une demi-heure. Ça l'avait presque exaspéré, puis finalement rassuré. C'était efficace. Il avait affaire à des gens qui devaient avoir l'habitude de ce genre de patients et de ce genre de procédures. Il ne pouvait évidemment pas se promener toute la journée avec sa combinaison sur lui. Par contre, il avait demandé à reprendre son conner. Ainsi, pour la prochaine crise d'angoisse, il pourrait se le mettre sur le nez, et peut-être que ça le calmerait. On lui avait alors expliqué que, psychologiquement, non, justement. S'il devait y avoir crise, elle devait avoir lieu. En vrai, complètement. Et il devait essayer de la surmonter, sans béquille. Et si jamais il trébuchait, alors on le retrouverait à l'infirmerie. Une personne avec lui dans la salle d'attente lui raconta qu'au moment de sa troisième crise, il était devenu tellement rouge de combattre ces vagues d'angoisse qui essayaient de le submerger, qu'on avait failli appeler l'infirmerie, de peur qu'il ne fasse une attaque. Mais en fait non, effectivement, il avait serré les dents, retenu sa respiration, puis, après quelques minutes, plus ou moins en apesanteur, s'était levé et avait commencé à faire des mouvements sportifs au milieu de la salle d'attente. 2 ou 3 minutes s'étaient passées, et la crise avec. Dernière épreuve le lendemain matin. On l'avait obligé à aller discuter avec une psychologue qui visiblement était là pour le faire sortir de ses gonds. Et lui qui, d'habitude, était si calme, s'était retrouvé, sans même savoir pourquoi, debout, les poings serrés sur le bureau, en train de lui hurler des choses dont il ne se souvient pas, peut-être heureusement. Ce qui l'avait arrêté, c'était, plus que son manque de réaction, son large sourire. Elle était ravie et le lui avait dit. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, vous êtes particulièrement solide. Je pense que vous ne ferez plus de crise d'angoisse. La mauvaise, c'est que pour les gens comme vous, généralement, ça peut prendre plusieurs jours. Alors on vous a fait venir 5 jours avant la rentrée officielle. Vous avez 3 jours à tuer, 3 jours où on n'a rien prévu pour vous. 3 jours pendant lesquels le destin allait le mettre sur la route d'Alexia Dovodovitch. 3 jours de liberté, une mauvaise nouvelle, pensez-vous, avec tout ce que Loon avait besoin de faire, à commencer par se familiariser avec le poste que l'on mettait à sa disposition quand il voulait, pour rattraper le temps perdu sur sa citoyenneté des 3 villes virtuelles qui avaient bien voulu lui réserver. Il allait y passer 3 jours complets. Seulement, il y avait tellement de services offerts par le dôme, oui, c'est comme ça que les gens appelaient Dee Alden, le dôme. Donc, tellement de choses à faire à l'intérieur du dôme, il en profita aussi pour faire un peu de sport. Et c'est donc là qu'il croisa la dénommée Alexia Dovodovitch. où ils ne pouvaient pas se rater. À 7h le matin, la salle de sport était vide, à part eux deux. Elle avait une petite tête, sur un corps tellement bodybuildé qu'il arrivait presque à deviner des muscles dont il ne connaissait même pas l'existence. Comme il n'y avait guère qu'elle avec qui discuter, il engageait la conversation. Puis ils se retrouvèrent juste après le repas du midi, puis de nouveau le soir, et ainsi pendant 3 jours. Loon remarquait bien que, le midi et le soir, la salle était beaucoup plus remplie, mais que les gens discutaient peu avec Alexia. Il trouvait ça un peu bizarre, mais que c'était pour lui presque agréable de discuter avec une femme, et puis ça lui évitait d'avoir à discuter avec trop de monde. Le passage de son entrepôt, seul, à la foule, le laissait encore un petit peu timide. Bref, il en sut beaucoup. Visiblement, elle faisait partie des équipes au top, les équipes rouges. Elle lui avait expliqué les grades, par couleur, le rouge, les petites équipes, l'élite. En la voyant de loin, en uniforme, à la cantine, il avait vaguement repéré quelque chose sur son badge rouge qu'il n'avait vu nulle part ailleurs. Les autres avaient un badge avec une couleur bien reconnaissable. Elle, c'est comme s'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il avait profité d'un soir où ils avaient fait du sport jusqu'à relativement tard pour sortir en même temps qu'elle et la voir ainsi de près en uniforme. Très clairement, sur son badge rouge, il y avait un M marqué comme avec un feutre. On sentait bien que c'était rajouté, que ça ne faisait pas partie du badge. Il posa donc la question, un petit peu plus tard, à un autre habitué de la salle de sport. « Alexia ?»«
Oui,
elle est rouge. Mais même parmi les rouges, il y a une sorte de hiérarchie. En tout cas, il y a le top du top, la crème de la crème. Et elle en est. Yann Mérès, je pense que tu en entendras parler. » Le 4e jour, c'était la rentrée. Il avait autre chose à faire que de se souvenir de ce genre de détails. C'est le grand patron du centre de recrutement et de formation, Andrew Semitel, qui leur fit l'accueil. Et là, évidemment, pour lui, la mauvaise nouvelle. Loon faisait partie du petit groupe qui, du point de vue informatique, n'avait pas vraiment les connaissances nécessaires. Il avait donc droit à 2 heures de cours en plus tous les matins. Sachant qu'il s'était déjà promis de s'astreindre à 2 heures de ce qu'il appelait citoyenneté, ça allait lui faire des journées plutôt chargées. En tout, ils étaient 19, entre 25 et 30 ans. Ah, un avait l'air un petit peu plus jeune, peut-être 22 ou 23. Lui, à côté, faisait franchement papy. Il fut néanmoins rassuré, le lendemain matin, à 7h, l'heure pour la rentrée de ceux qui avaient besoin d'un petit rappel en informatique, de ne pas se trouver seul dans la salle. En fait, ils étaient 4. Et ce matin-là, il fit donc connaissance avec les 3, disons, concepts qui allaient peupler sa fin de carrière. Les Afton, les Actool et les Acton. Il comprenait maintenant ce que Andrew Semitel leur avait dit la veille. Souvenez-vous, vous n'êtes ici que pour défendre et protéger les habitants, pas les visiteurs, les habitants de la ville virtuelle, ceux qui y ont des immeubles. Donc, vous allez pister, surveiller et potentiellement engager des actions contre les visiteurs pour protéger les habitants. Si jamais un visiteur fait de l'esclandre contre un habitant, vous intervenez. Contre un autre visiteur, ou si un habitant escroque un visiteur, ça n'est pas votre problème. La ville s'en occupera. L'intérêt de l'IAMAS, c'est justement d'être transverse à toutes les villes virtuelles, puisque les visiteurs peuvent aller dans l'une ou dans l'autre. Ce sont les villes virtuelles qui nous payent. Donc ce sont eux que nous devons protéger, et donc leurs habitants, pas les visiteurs. Ce que Loon, en bon flic, avait traduit dans sa tête par « Ok, comme dans une dictature, la loi et l'ordre, et les boutiques ». C'est aussi à cette occasion qu'il avait appris ce que voulait réellement dire IAMAS. Ça n'avait rien à voir avec une association internationale pour la sécurité des métropoles ou quelque chose comme ça. Le nom venait de bien plus loin, et avait été oublié, ce que Andrew Semitel trouvait particulièrement avantageux. IAMAS, c'était In Virtual Agents Ministry for Alter Space. En gros, le ministère des agents, disons In Virtual, pour les espaces alternatifs. In Virtual, ça on leur avait de nouveau rappelé. Ils étaient des agents réels qui allaient interagir avec ce qu'il se passait dans le monde réel par rapport au virtuel. La connaissance des villes et la citoyenneté étaient indispensables, mais ils n'allaient pas avoir un avatar en uniforme pour se promener à l'intérieur de la ville. Ils auraient un certain nombre d'avatars différents, avec des accréditations différentes, avec un petit peu de budget pour pouvoir acheter, pour pouvoir se comporter comme un visiteur normal, mais leur vrai travail était à l'extérieur de la ville virtuelle, pas à l'intérieur. d'où le « in virtual ». Quant au fait que plus personne ne savait ce que voulait dire Yamas, Andrew leur avait expliqué que ce n'était pas plus mal, que ça déshumanisait un peu les choses, que le mot « agent », dans le vrai nom, aurait pu rappeler qu'il y avait des vrais flics derrière. Alors que là, Yamas, une espèce d'association internationale, ça paraissait un peu éthéré, et du coup, il était plus facile d'agir dans l'ombre. D'agir, donc, contre les visiteurs, pour protéger les habitants. Il découvrit donc, lors de ce premier cours, en quoi consistaient les fameux visiteurs. On leur présenta ça un petit peu comme des matrioshkas, des poupées qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Le cœur du système, l'IDON, la couche de base, avec les informations techniques et l'identité du visiteur. Quelque chose de purement informatique, que le visiteur lui-même ignore ou connaît mais sans vraiment y avoir accès. La première poupée, celle qui va vraiment l'intéresser, et le premier niveau de visiteur. Afton, l'avatar. L'avatar, on, pour, dans la ville. Afton, un avatar, sachant qu'un utilisateur, un humain, on veut dire, un vrai, peut avoir plusieurs Afton, et que chacun va reposer sur un seul Aiden, son identité à l'intérieur de cette ville virtuelle. Un Afton ne peut pas faire grand-chose. Il va se promener à l'intérieur de la ville et rentrer dans les endroits qui lui sont autorisés. S'il veut commencer à interagir, il a besoin d'outils, de clés, de droits. On parle alors d'Actul. En tout cas, on parlait d'Actul. On en parle toujours. Mais là, le professeur leur a fait un petit peu d'histoire. Et c'était particulièrement intéressant pour Loon, qui ne s'était jamais vraiment demandé comment tout cela avait commencé. On parlait de ville, parce qu'à l'intérieur, on parlait de bâtiments. Parce que quelque part, cela ressemblait à ça. Un habitant, c'était quelqu'un qui possédait un bâtiment. Un bâtiment, c'est ce qui avait pu, à l'époque, être apparenté à un site sur le réseau. Sauf que là, on plongeait réellement dans un univers complètement immersiel et en trois dimensions. L'Actul, c'était quoi? Avant la création des villes, il y avait déjà, comme perdu dans l'espace, des bâtiments, puisque nous gardons l'image du bâtiment, que les gens pouvaient aller visiter en passant de l'un à l'autre sur le réseau. L'exemple qui avait été pris était l'exemple du cinéma. Un cinéma, privé, et puis une vidéothèque, publique. Prenons le cinéma. Un petit peu comme dans le monde physique, pour rentrer dans le cinéma, il fallait avoir sa carte de membre. Et ensuite, à l'intérieur, on pouvait décider d'aller voir un film ou acheter de la confiserie. Deux actions différentes, les uns pouvant faire soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Et la carte de membre donnait droit, grâce à des codes, à ce que l'on avait le droit de faire. Pour la vidéothèque publique, n'importe qui pouvait rentrer. Par contre, pour emprunter un film, on avait effectivement besoin d'une carte de membre avec les codes qui allaient bien. Immersif en trois dimensions avait poussé certains entrepreneurs à vouloir rassembler ces bâtiments dans un univers cohérent. La ville. Prenons Ubriel, l'une des premières. La ville est créée. Et le créateur de la ville va attirer des bâtiments qui vont s'implanter dans cette ville. Puis, d'autres activités vont se développer directement dans la ville. On se retrouve donc avec deux niveaux de visiteurs et deux niveaux d'interaction. Là apparaissent les Acton. Et comme en géologie, c'est entre deux couches différentes qu'il se passe les choses les plus intéressantes, dans les villes virtuelles, c'est à l'interface entre Actul et Acton qu'il pouvait y avoir le plus de, disons, choses louches, voire délictueuses. Admettons que vous vouliez rentrer dans Ubriel. Vous avez besoin d'un Aidon, puis vous vous créez un avatar. Vous pouvez alors ne pas faire grand-chose, mais tout au moins vous promener dans la ville. Et là, vous découvrez que votre cinéma préféré s'y est déjà implanté. Vous avez déjà la carte de membre de ce cinéma. Mais elle est à part de, entre guillemets, votre multipass de la ville, qui vous permet de vous y promener. L'Actul, c'est quoi? C'est le fait de dire, vous avez un Afton, un avatar, dans cette ville, et on va vous donner un certain nombre d'outils, un certain nombre de boîtes à outils qui vous permettent d'interagir avec des habitants. Ainsi, vous avez votre carte d'Afton pour Ubriel, et pour rentrer dans ce cinéma, on va inscrire sur cette carte une sorte de sous-carte dans laquelle sont les informations du cinéma. À partir du moment où vous venez avec plusieurs cartes, vous devenez un Actul, c'est-à-dire un Afton avec plusieurs sous-cartes intégrées, comme une sorte de boîte à outils vous permettant d'aller acheter dans telle boutique ou dans telle autre. La seule chose que fait la ville sur votre Afton, c'est de prévoir, comme sur une veste, un nombre très important de poches dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les autres cartes, les tools, pour interagir avec les habitants. Puis ensuite, il y a des habitants qui se créent directement dans la ville. Ceux-là, ils sont totalement intégrés. Et dans votre carte d'Afton, vous allez pouvoir ajouter ou pas les droits vis-à-vis de ces habitants. De la même manière, c'est une sorte de tool, une sorte de sous-carte, sauf qu'elle est fusionnée avec celle de la ville. Une sorte de multipass. Et c'est ensuite le jeu de la ville d'essayer de transformer les Actool en Acton. Le deal, il est simple. La ville gérera les droits et toutes les interactions du visiteur, ce que n'aura plus à faire l'habitant. En échange, l'habitant perd un petit peu la main sur son visiteur, sur son client, mais il récupère quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que le fait de sous-traiter la gestion des droits de ses visiteurs. Les informations. Car en ouvrant ainsi les informations de ses visiteurs à la ville, chaque habitant peut accéder aux informations globales du visiteur, là où il a été, chez d'autres habitants par exemple. Bref, tout ce qu'il faut pour connaître ses goûts, ses habitudes, et potentiellement les utiliser pour lui vendre plus. Le problème, pour les villes, c'est que certains bâtiments se sont certes implantés après leur création, mais dans d'autres villes, et viennent ensuite s'implanter chez elles. Il continue donc à y avoir des Actool en parallèle des Acton. Et on reste Actool tant qu'on n'est pas entièrement transformé en Acton. Il suffit qu'un des visiteurs ait encore une seule carte, entre guillemets, spécifique pour un habitant, et cela empêche la ville de le gérer complètement. Tout cela peut paraître terriblement théorique. Mais pour le travail de l'IAMAS, c'est la base. Car ils vont avoir trois grands types d'utilisateurs à gérer. Les Afton, les avatars, ceux-là, ils ne font pas grand-chose, on peut les ignorer. Sauf si ce sont de faux avatars, qui ont tout de même la possibilité d'interagir avec le milieu. Ensuite, les Actool, des Afton, qui ont, sur leur carte de la ville, peut-être certains droits, et qui conservent des droits gérés séparément. En gros, c'est comme s'ils avaient le multipass de la ville, et puis un certain nombre de cartes pour certaines boutiques. L'étape ultime, l'Acton. Il n'a plus qu'une seule carte, tout est dessus. C'est la ville qui gère cette carte, qui gère les droits, en se reposant sur les tools, les droits, les cartes de membres, qui sont cachées en dessous. Et les pirates s'en donnent à cœur joie, avec toutes ces petites subtilités, et surtout ces différences de couches, entre qui gère quoi. Pour un habitant, la question, il va évidemment gérer les droits de son visiteur, mais jusqu'à quel point il le gère de manière globale. Ou simplement, est-ce qu'il se contente de dire il a le droit de faire ceci ou cela et de connecter un code avec, par exemple, le compte client de cette personne. Ainsi, en bon néophyte, Loon s'aperçut que dans les quatre villes où il se promenait, il s'était contenté de prendre le multipass de la ville, il était donc un Acton. Mais certains bâtiments, certaines fonctionnalités, lui étaient interdites, car ses habitants continuaient à vouloir maîtriser intégralement leurs visiteurs. Il fallait donc prendre leur carte de membre séparément, puis d'une certaine manière l'inscrire à côté du pass de la ville pour pouvoir y accéder, ce qu'évidemment Loon ne savait pas et n'avait donc jamais fait. 3 mois se passèrent ainsi, bien chargés, entre les cours de rattrapage informatique, les journées à 19, et puis le soir, parce que le matin il n'avait pas le temps, son voyage intensif dans la citoyenneté pour les 3 dernières villes dont il n'était pas encore tout à fait citoyen. Plus Loon découvrait comment fonctionnait l'IAMAS, moins il comprenait l'importance de ses 4 citoyennetés minimum. De toute façon, il travaillait d'une ville à l'autre. Chaque équipe n'était pas concentrée sur une ville, mais sur un ensemble de villes, et peut-être plus particulièrement sur certains utilisateurs, sur certains pirates, que l'on retrouvait un peu partout. C'était le côté invirtual. En fait, ce pirate pouvait frapper dans n'importe quelle ville, il le suivait. Alors, pourquoi devenir citoyen de 4 villes minimum ? C'est en réfléchissant à l'âge de ses collègues qu'il se dit que ça pouvait être un bon moyen de faire la sélection entre ceux qui étaient vraiment motivés et les autres. Ça changeait un peu son approche. Lui se serait bien vu flic en uniforme dans Ubriel. Ce qu'il découvrait était à la fois plus intéressant et beaucoup plus vaste. Il lui fallut commencer à se renseigner sur la structure pour essayer de se projeter et savoir quel poste il allait pouvoir demander en espérant qu'il n'y aurait pas des choses bizarres dans l'ombre, car il se savait surveiller. Il avait eu cet entretien bizarre avec Andrews et Mittel au soir du 3e jour. Tout le monde l'avait, tout le monde le faisait, juste avant de commencer, le lendemain matin, la rentrée. Mais pour lui, cela avait été un petit peu différent. Ce qui, pour les 18 autres, avait été une simple formalité expédiée avec du personnel administratif, avait été pour Loon un tête-à-tête avec le grand patron. « Bienvenue à Dialden. même si cela fait 5 jours que l'on vous croise souvent dans les couloirs, m'a-t-on dit. Je tenais à vous rencontrer personnellement. Il y a autour de votre dossier et de votre profil de nombreux éléments qui font que je vous tiendrai à l'œil. Déjà, votre âge, et puis, c'est vrai, un vrai policier. Nous n'en avons jamais eu. Il est vrai que votre âge fait aussi que vous avez pu rouler votre bosse. Comme vous allez le voir, la plupart de vos collègues, quand ils rentrent, sont beaucoup plus jeunes. Ils n'ont donc pas eu de vrai métier, si l'on peut parler ainsi. Je reste surtout étonné par les exceptions que certaines villes virtuelles ont pu faire pour vous concernant la citoyenneté et qui sont, à ma connaissance, pratiquement uniques. Je n'ai jamais entendu une ville virtuelle faire la moindre exception, la moindre dérogation aux règles pour devenir citoyen. Or, vous, oui, et pas des moindres, et pour 3 villes. Incroyable, non ? Comme cela ressemblait à une question, Loon se sentit obligé de bredouiller un mensonge. C'est vrai, mais je pense qu'ils ont été touchés par mon acharnement. Pendant 3 ans, de manière extrêmement intensive, j'ai travaillé pour devenir citoyen. Et puis, des événements extérieurs m'ont amené à ne plus pouvoir le faire, et je pense qu'ils ont été sensibles à cette volonté farouche que j'avais pu montrer. Simitel reprit. Notez bien que ça m'arrange. Il vaut mieux que ça soit eux qui fassent des exemptions plutôt que nous, car nous n'en avons jamais faites, et je ne me voyais pas en faire, même pour vous. Quoique. Enfin, nous en reparlerons. En tout cas, j'ai effectivement échangé avec les comités de sélection de ces 3 villes qui m'ont confirmé les conditions. Vous devez, pendant les 6 mois de formation initiale à l'IAMAS, continuer à travailler de manière extrêmement intensive pour devenir citoyen, et à ce moment-là, ils vous donneront la citoyenneté la veille du moment où nous pourrons, nous, grâce à ces conditions et à l'ensemble des résultats que vous aurez pu avoir pendant ces 6 mois chez nous, décider si vous pouvez intégrer nos rangs ou pas. Loon en eut des sueurs froides. Ainsi, l'IAMAS était rentré en contact avec les fameuses villes. Il ne savait pas exactement comment il avait eu droit à de telles exemptions sur des règles gravées dans le marbre, avait imaginé Denis, peut-être, tirant des ficelles, ou la compagnie, avec toute sa puissance, insistant pour qu'il puisse continuer son rêve. Il espérait que rien n'avait fuité. Il n'était simplement pas à la fin de ses surprises, et celle qui arrivait n'était pas la moindre. Bref, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous réussirez, à la fois à faire ce travail intensif, je vous préviens, chez nous aussi, le travail sera intensif, et que dans 6 mois nous pourrons bénéficier de votre expérience. Comme vous le savez, c'est la règle, je dois vous faire signer ce contrat, vous l'avez lu, je pense même que vous l'avez bien étudié. En gros, ce sont un petit peu toutes les règles que vous acceptez de suivre pendant les 6 mois de formation en entre-saint, et puis on vous en fera signer un, peut-être un petit peu plus solide, au moment où nous vous intégrerons totalement. Je vous remets à signer celui-ci, qui a été légèrement modifié par rapport à celui que nous vous avions envoyé. L'article 22, si vous vous souvenez, c'est l'article sur la confidentialité des informations et de tout ce que vous allez pouvoir découvrir en nos murs. Suite à une visite, disons inattendue, il a été ajouté un alinéa à cet article, dont je vous demande de prendre connaissance avant de le signer. Mes visiteurs ont pris grand soin de m'expliquer à quel point c'était totalement indispensable. À ce stade, difficile de comprendre exactement de quoi il parlait. Loon, ne connaissant pas Andrew Semitel, ne savait pas s'il fallait y voir une invitation, une menace, une main tendue. Aussi, se contenta-t-il de prendre le papier, de chercher la page de l'article 22 et de le lire. Le malaise qu'il ressentait vaguement depuis quelques minutes se transforma en une espèce de boule qui lui broya les entrailles. Il se demanda s'il n'était pas en train de refaire une crise d'angoisse, mais cela n'avait rien à voir avec l'absence de son connerre ou de sa combinaison anti-rayonnement. Les fameux visiteurs mystérieux avaient pris soin de rajouter, de manière manuscrite, à l'article sur la confidentialité des données, qu'il s'engageait à ne rien dire non plus sur toutes les informations dont il aurait pu avoir connaissance avant son entrée à l'IAMAS. Ce fut comme une gifle et en même temps un grand soulagement, car, autant l'avouer, depuis son départ de Los Angeles, il s'était demandé si l'armée le laisserait vivre. Il avait sous les yeux, écrit de la main de quelqu'un qui devait en savoir beaucoup sur lui, la preuve que oui. Si, et seulement si, il intégrait l'IAMAS. La condition était claire, et le « bonne chance » d'Andrew Semitel fut entendu comme étant lourd de conséquences, alors que le pauvre ne devait même pas être au courant de quoi il s'agissait. En tout cas, pour Loon, il n'y avait guère de doute, il devait absolument réussir à intégrer l'IAMAS. Les trois premiers mois du cours furent donc intenses et au début un petit peu inquiétants, car visiblement, non seulement il avait besoin de cours de rattrapage sur l'informatique, mais il sentait bien dans pas mal de domaines qu'il était en dessous de ses collègues. Il ne s'agissait pas d'un concours, et tous ceux qui réussiraient leur examen de passage, derrière auraient un poste. Il n'y avait pas de numerus clausus. Mais Loon se sentait tout de même différent et presque inférieur, et pas seulement sur les connaissances informatiques, sur la pratique aussi. Ainsi, ce cours du binaire, qui avait lieu tous les mois, il avait été tellement mauvais les premières semaines qu'on avait décidé, gentiment, de l'exempter de ce cours. Il en profitait pour continuer à travailler sa citoyenneté, mais se rendait bien compte que là, il avait un manque, et qu'il était tellement flagrant qu'on ne lui laissait même pas la chance de pouvoir le combler. Un actoul, ou un acton, qui fait quelque chose de répréhensible, c'est une sorte de virus qu'il faut être capable d'arrêter extrêmement rapidement. Et là, on n'est plus dans une ville avec des bâtiments, en immersion, on n'est plus dans le monde réel. On est juste dans de l'informatique, dans du code. Une des compétences clés était donc de pouvoir taper du code, quel que soit le langage, le plus rapidement possible. D'où le fameux concours du binaire, qui mettait toutes les compétences dans une seule action. C'était un crescendo en quatre étapes. Première étape, apprendre l'alphabet et tout un tas de commandes en binaire. Même pas en langage machine, en binaire. Des 0 et des 1. Ensuite, il fallait taper très très vite. Des 0 et des 1, il y avait cette espèce de clavier un petit peu bizarre qu'il avait regardé la première fois en se demandant ce que c'était. 8 touches, 4 à droite, 4 à gauche, un système pour porter le poignet à la bonne hauteur, et au milieu, parce qu'en fait ce n'était pas un clavier, mais deux moitiés de clavier, 2 touches pour le pouce, juste au niveau de la table, un pour l'espace, l'autre pour entrer. Les 4 touches à gauche, des 0. Les 4 touches à droite, des 1. Pourquoi 4 touches? Oh, pas parce que ça allait beaucoup plus vite de taper avec plusieurs doigts, quoiqu'effectivement, pour taper 1, 1, 1, 1, d'utiliser les 4 doigts l'un à la suite de l'autre, ça allait plus vite que de faire 4 fois la même chose avec le même doigt, mais c'était aussi pour ne pas fatiguer les mêmes doigts. Il y avait un système statistique qui vous disait si un des doigts était sous-utilisé ou si un autre, au contraire, était surutilisé. Pour s'entraîner, on passait une bande sonore. Il fallait taper les 0 et les 1 aussi vite qu'on les entendait. Troisième couche, savoir quelle commande utiliser ou quel mot taper en fonction de la situation. Quatrième couche, généralement on partait d'une image presque subliminale sur laquelle il fallait très rapidement repérer le problème avant de savoir quelle était la solution, puis la taper le plus vite possible. Autant dire que Loon était complètement largué. À son âge, réapprendre un alphabet et des commandes, c'était déjà compliqué. Mais alors ensuite, le fait de taper très très vite au clavier, c'était mort. Heureusement, sur les deux dernières étapes, il avait été rassuré par la manière dont les choses s'étaient passées lors de l'apprentissage et surtout lors des entretiens qu'ils avaient après un certain nombre d'exercices. La première fois, on les avait pris par surprise. Ça paraissait simple, ils n'étaient pas encore habitués. On leur avait dit « on va vous montrer une image et ensuite vous allez la reproduire sur la feuille de papier que vous avez devant vous ». Drôle d'idée. Puis, on leur avait projeté l'image, une seconde, et quelqu'un leur avait dit « vous avez 10 secondes pour la redessiner ». Pas le temps de se dire que c'était du grand n'importe quoi, 10 secondes, et les feuilles étaient relevées. C'est un peu plus tard, lors de l'entretien qu'il eut avec un psychologue, sur le résultat de l'ensemble de ses exercices, qu'il faisait plusieurs fois par jour, qu'il finissait presque par prendre pour des récréations, au milieu des cours. Ce fameux entretien, qui le rassura complètement sur sa capacité à intégrer l'IAMAS, malgré sa différence avec les autres, et tous les points faibles qu'il avait en informatique. Le psychologue était revenu sur le premier exercice. D'abord parce que, par surprise, selon lui, il était peut-être le plus à même de démontrer ce qu'il cherchait. Et aussi parce que le résultat avait été particulièrement parlant. L'image projetée une seconde était un grand carré divisé en 12 avec dans chaque un graphique, en couleur. Des ronds, des barres, des courbes. Des choses écrites, mais trop petites pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agissait. Une sorte de tableau de bord en tout cas. En une seconde, c'est comme si on avait juste eu le temps d'imprimer la rétine. Ensuite, 2, 3, peut-être 4 secondes, le temps de comprendre les instructions, Vous avez 10 secondes pour faire le dessin, puis essayer de se remémorer ce que l'on avait vu et dessiner ce que l'on pouvait. L'important à ce stade, c'était les statistiques, ce que pratiquement tout le monde faisait, et les quelques rares exceptions qui démontraient une perception ou une réflexion différente, les deux allant de pair, comme le psychologue le lui avait rappelé. Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est le cerveau. Quand vous êtes en stress, en réaction instantanée, alors, au cours de cet exercice, le cerveau réagit exactement de la même manière que si vous arrivez quelque chose dans la vie réelle. Cela démontre totalement la manière dont vous réfléchissez et la manière dont le cerveau va guider vos actions. Le principe de l'image subliminale, c'est la même chose. Vous n'avez pas le temps de tout percevoir, vous allez donc percevoir seulement une partie qui dépendra de la manière dont vous réfléchissez. Prenez cette image. Pratiquement tout le monde va commencer par potentiellement dessiner un carré, ou s'ils n'ont pas le temps, dessiner des ronds. C'est-à-dire les graphiques qui représentaient des camemberts. La forme la plus visuelle, généralement avec les couleurs vives, est la plus facile à dessiner. On va donc récupérer une feuille avec trois ronds, là, là et là, où il y avait des camemberts. Certains, plus sensibles aux couleurs, vont plutôt dessiner ces deux graphiques-là, ceux avec les barres, parce qu'ils sont dans des couleurs un petit peu plus vives. Parfois, mais c'est vrai que c'est plus rare, nous avons un géométricien, les lignes. Lui va commencer par dessiner la grille avec les 12 carrés, avant de regarder ce qu'il y a dedans. Pour nous, c'est le seul cas inquiétant, qu'il faudra confirmer ou pas avec les exercices qui vont suivre. Car globalement, ce type de réflexion et ce type de perception est un problème quand il faut réagir dans l'urgence, en tout cas à l'IAMAS. Et puis, il y a les vraies exceptions. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous en faites partie. Vous avez une vision, une manière de penser, qui correspond tout à fait à ce que nous cherchons. Vous avez vu ce que d'autres n'ont pas vu, et cela vous a suffisamment impressionné pour que cela soit cela que vous ayez décidé de dessiner. L'anomalie, la courbe, tout en bas, la deuxième, à partir de la gauche. Effectivement, une très jolie courbe, sauf qu'il y a un trou au milieu. Juste pour votre culture personnelle, le stade ultime, si je vous remonte le schéma, ici, l'anomalie des anomalies, la petite flèche, au bout de l'axe vertical, à peu près au milieu, qui est à l'envers. Je vous rassure, personne ne nous l'a jamais dessiné et personne ne l'a jamais vu. C'est juste le dernier stade de celui qui a inventé ce schéma. Lund s'en moquait. Il retenait simplement qu'il y avait quelque chose qu'il différenciait des autres et qui était recherché par l'IAMAS. Ça l'avait rassuré sur sa capacité à aller au bout des 6 mois et à survivre, car s'il n'intégrait pas l'IAMAS, quelle serait la décision des fameux visiteurs mystérieux d'Andrews et Mittel, le fameux alinéa manuscrit de son contrat. C'est pour ça qu'il participait quand même tous les mois au concours du binaire, simplement pour appuyer sur une touche le plus vite possible à partir du moment où il avait compris ce qu'il fallait faire. Il demandait alors ensuite simplement de comparer sa vitesse de réaction aux autres. C'était toujours l'histoire du chat. Une photo représentant l'intérieur d'un appartement, avec un chat qui s'apprêtait à faire une bêtise. Il fallait repérer le chat, repérer la bêtise, et ensuite repérer ce qui pouvait soit l'empêcher, soit en réduire les conséquences. Puis traduire ça en binaire et taper le binaire le plus vite possible. Pour le palmarès, les organisateurs prirent donc l'habitude de ne plus enlever seulement un nom, mais aussi le sien. Effectivement, il y avait un nom qui était systématiquement enlevé, sinon il aurait systématiquement été le premier. Seban Stirlikatz. Lui aussi avec un macaron rouge, lui aussi avec un M au feutre dessus. Logique, la crème de la crème de la crème, l'équipe Mérès. Seban était muet et communiquait donc avec un vocodeur. Il tapait tellement vite que la voix électronique qui sortait de cet appareil ne semblait pas avoir les hésitations habituelles que l'on subit généralement quand des gens tapant normalement au clavier utilisent des boîtiers de synthèse vocale. On enlevait donc Seban du palmarès, puis on enleva aussi Loon, qui simplement lui n'avait tapé qu'un seul zéro. Généralement, plus vite que les autres. Ah, évidemment, il fallait lui faire confiance quand il expliquait qu'il avait vu plus vite que les autres ce qu'il fallait faire. Par exemple, le mot tiroir. La photo de la cuisine laissait clairement apparaître le chat, plus ou moins dans l'ombre, donc peut-être difficile à repérer, en train de passer derrière un bocal posé en équilibre sur la table. La dite table possédant un tiroir, il fallait ouvrir le tiroir, le bocal allait donc tomber, non pas par terre et se briser, mais simplement basculer dans le tiroir. Étape visuelle et étape du raisonnement, d'abord repérer le chat, qui avait fini par devenir la mascotte de l'IAMAS, puis comprendre la bêtise qu'il était en train de faire, et chercher autour ce qui pouvait soit l'empêcher, soit en réduire les conséquences. Le concours binaire était toujours fait avec le chat, mais les exercices qu'on leur faisait faire 2 à 3 fois par jour avaient progressivement glissé vers quelque chose de plus réel, avec des images de ce qu'ils pouvaient voir à l'intérieur d'une ville virtuelle, puis plutôt sur du code. et Loon avait été rassuré, ils gardaient cette capacité. Par exemple, on leur faisait défiler des 0 et des 1. Lui, assez rapidement, avait repéré qu'il y avait deux fois la même série. Peut-être parce que les autres avaient essayé de traduire ça en lettres ou en commandes. Lui, non. Mentalement, il aurait fini par le faire, en ayant appris tout ce qu'il devait en binaire. Et son premier réflexe avait été une sorte d'analyse réflexe qui semblait être justement ce qui intéressait Liamas. 3 mois très intenses, parfois difficiles, mais Loon gardait espoir. Cependant, il était temps pour l'engrenage infernal de recommencer à tourner, ce qui allait implacablement faire basculer Loon en enfer.